Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Mel Emmanuel.
7 heures à Abidjan et en temps universel. Bonjour à tous. Le 2 décembre 2023, il y aura reprise de l'élection municipale dans 9 communes et de l'élection régionale dans la région du Guéman. Certains faits à la base de ces reprises seront revisités dans cette édition par Francis Cassi. À l'occasion d'une mission dans l'ouest du pays, le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, a procédé à l'installation du nouveau chef de bureau de l'agence onusienne Aman. Nous y reviendrons dans ce journal. Guinée, évasion de Dadis Camara et certains de ses proches. Selon le parquet général guinéen, au moins 9 personnes ont été tuées. Sur les circonstances de cette évasion et la suite du dossier, nous aurons les précisions de Tierno Ba, confrère de la radio-télévision guinéenne. Le parcours des titres des journaux ivoiriens sera assuré par Jean-Mylène Bitti. Enfin, à propos de la reprise des élections dans 9 communes et une région, l'invité de la rédaction, Dr Séverin Kwame, lance un appel à tout mettre en œuvre pour garantir des résultats crédibles. Bienvenue sur Radio de la Paix. Le 2 décembre 2023, il y aura reprise de l'élection municipale dans 9 communes et de l'élection régionale dans la région du Guéman, comme annoncé par la CEI. C'est ce qui lui a été ordonné par le Conseil d'État qui a annulé récemment, dans ses différentes décisions, le double scrutin tenu le 2 septembre dans ces localités à cause de certains faits sur lesquels revient ici Francis Cassi.
Du 21 septembre au 10 octobre 2023, le Conseil d'État a statué en 6 séances sur 71 requêtes pour les élections municipales et 13 pour les élections régionales dans le cadre du contentieux des résultats. Au final, il a décidé que le scrutin, conformément à l'article 172 du Code électoral, soit repris dans la région du Guémont, où, soutient-il, sur la base de l'instruction et des pièces du dossier, l'élection des conseillers régionaux a été émaillée de violences massives. Qu'il est impossible, a estimé le juge des élections locales, dans ces conditions, d'établir avec certitude la liste de candidatures qui auraient été déclarées élues. Pour les municipales, le vote, a jugé le Conseil d'État, doit être aussi repris dans les 9 communes de San Pedro, Oumé, Tiassalé, Kouibli, Goïtafla, Dabakala, Koumbala, Sarala et Ferke. Par exemple, dans la commune de Ferke, la différence de 808 voix entre les chiffres de la CEI et ceux ressortis des procès-verbaux de dépouillement a nécessairement impacté les résultats proclamés le 3 septembre. Que dès lors, il y a lieu d'annuler l'élection du 2 septembre des conseillers municipaux de cette commune et de la reprendre, a tranché le Conseil d'État. C'est pourquoi, pour un sociologue enseignant chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, l'enjeu de toutes ces élections partielles le 2 décembre prochain est de prendre toutes les dispositions pour ne pas qu'il y ait répétition de ce qui a conduit à leur reprise.
La confrérie des Dozos de Côte d'Ivoire à l'école des droits de l'homme l'espace d'une journée à l'initiative du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Il a été en effet organisé un atelier de formation des Dozos pour contribuer à l'appropriation des notions de base relatives aux droits de l'homme. Compte rendu, Matatoré.
Il s'agissait surtout d'améliorer leur compréhension sur les principes fondamentaux des droits de l'homme, particulièrement dans la protection des individus, et de créer une meilleure synergie entre Dozo, société civile et autorité. Namizata Sangaré, la présidente du CNDH.
Aujourd'hui, le CNDH a pris l'engagement avec les présidents des différentes fédérations de les soutenir dans leur volonté de respecter les codes moraux du Dozoya, de contribuer à la prévention et à la gestion des conflits, ainsi que dans leur souhait d'améliorer la collaboration avec les autorités administratives, sécuritaires et avec les autres composantes de la société civile.
En plus de leur rôle culturel, les Dozos participent aux activités sécuritaires dans nos régions en marge des forces régulières, d'où l'intérêt pour eux de se familiariser avec les normes en vigueur à tout individu dans la société. Gounogon, Ténénan, Amadou et l'un d'entre eux est député de Boundiali.
Il ne faut pas se faire justice, on a l'habitude de ligoter des êtres humains comme du bétail, cela n'est pas autorisé. Une fois qu'il y a des présomptions, il faut remettre aux forces régulières pour mener les procédures. Il ne faut pas mettre en bandoulière les armes légères.
Au cours de cette rencontre, la question de la création d'une carte commune identifiant les dozos sur l'étendue du territoire national a été réitérée afin de faciliter aux autorités une possible reconnaissance du statut dozo en Côte d'Ivoire.
Le renforcement de la compréhension des communautés du Bounkani sur les économies illicites et leurs liens avec les conflits et l'insécurité dans le nord de la Côte d'Ivoire et l'accroissement de la résilience des populations face à ces nouveaux défis étaient les objectifs du dialogue sur la résilience organisé à Bouna en atelier régional de réflexion du 24 au 25 octobre 2023 par Global Initiative, l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale. Les échos de cette activité avec Jérôme Kouassi, notre correspondant dans le Bounkani.
Les objectifs et l'approche de ce dialogue avec Mohamedou Khan, analyste au sein de l'Observatoire des économies illicites de l'Afrique de l'Ouest de Global Initiative.
Discuter ensemble des mots qui gangrènent la société, surtout les économies illicites, en lien avec des violences et les conflits. Comment contrer le discours, par exemple, des groupes extrémistes violents qui commencent à chercher à recruter au niveau local.
Quelques activités illicites pouvant financer l'extrémisme violent dans le Bounkani.
L'empaillage clandestin.
Les jeunes aujourd'hui s'adonnent à des comprimés, sont par exemple des cibles faciles.
On prend des gens à la maison, on les enlève contre rançon.
Ceux à qui profitent la criminalité environnementale et les économies illicites avec Mohamedou Khan, analyste au sein de l'Observatoire des économies illicites de l'Afrique de l'Ouest de Global Initiative.
On sait que c'est souvent des groupes bien organisés qui s'adonnent à ces activités-là, qui sortent carrément de la légalité, qui souvent érigent le parc comme lieu de refuge après avoir commis leur forfait dans la région.
Ce dialogue sur la résilience cherche à renforcer la cohésion communautaire. Afissata Ouattara, présidente des femmes de Bouna, sur les modèles captés.
Nous avons pris beaucoup d'exemples ailleurs. Nous allons les répercuter ici pour que les peuples de Bounkani vivent en paix.
Ce dialogue sur la résilience fait partie du projet Promouvoir la stabilisation par des interventions sensibles à la criminalité en Afrique de l'Ouest, financé par le ministère allemand des Affaires étrangères. Jérôme Kouassi, Bouna, Radio de la Paix.
Parlons transport intérieur. Le directeur de cabinet du ministre des Transports, Koné Diomon, a procédé le jeudi 2 novembre 2023 à Abidjan-Cocody à l'ouverture d'un atelier portant sur les véhicules de transport avec chauffeur VTC. Cette assise, conjointement organisée par l'autorité de régulation du transport intérieur ARTI et la direction générale des transports terrestres et de la circulation du ministère des Transports, vise une meilleure organisation du secteur. C'était du 2 au 3 novembre 2023. Jean-Claude Mabéa.
Le décret comprend 43 articles répartis en 8 chapitres. Quelques-unes des dispositions spécifiques liées à l'activité des VTC ont été présentées par Marie-Paul Cassi de l'ARTI.
Toutes les entreprises assurant un service de transport par VTC doivent être régulièrement constituées. Et ces entreprises-là doivent détenir un certain nombre de documents administratifs, doivent détenir l'autorisation de transport, la carte de transport par véhicule utilisé. Ces entreprises doivent être à jour du paiement de leurs patentes et employer des conducteurs qui respectent les conditions et notamment qui ont pu faire le certificat.
Réaction de Machel Saint-Lô, directrice générale d'une entreprise VTC en Côte d'Ivoire et au Ghana, et de Diaby Ibrahim, président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier.
Je suis très heureuse que finalement on puisse s'asseoir autour d'une table et discuter des conditions d'applicabilité de ce décret. On est très enthousiaste à voir avancer le cadre réglementaire et qu'on puisse avoir des éléments de réponse à certaines questions qui sont soulevées par ce décret.
Alors, il faut dire que cet atelier est bienvenu dans la mesure où les conclusions vont permettre à toutes les parties prenantes de comprendre le texte dans sa lettre et dans son esprit. Ensuite, de pouvoir l'appliquer conformément aux instructions donc, qui vont être données suivant les résolutions qui vont sortir donc, du présent atelier.
Le développement des VTC en Côte d'Ivoire présente un défi certain, notamment en matière de concurrence, de sécurité et des régulations, a fait remarquer Koné Diomon, le directeur de cabinet du ministre des Transports.
Le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, était en mission récemment dans l'ouest du pays, notamment dans le Tonkpi, pour procéder à l'installation du nouveau chef de bureau de l'agence onusienne Amman. Les détails de cette activité avec Stéphane Adams, notre correspondant régional.
Le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, a d'entrée de jeu situé l'importance de cette mission à Amman.
Nous sommes venus pour installer la nouvelle chef de bureau de l'UNICEF à Amman, comme celui de Korogo. C'est un bureau très important parce que c'est un bureau ouvert
couvre 9 régions et qui travaille dans presque tous les secteurs d'activité de l'UNICEF.
Zadi Massa Alice, la nouvelle chef du bureau de l'UNICEF Mans, entend jouer sa partition.
J'attends de la population ce qu'elle a toujours fait, participer de façon très active à nos activités, que ce soit au niveau étatique, au niveau déconcentré, au niveau communautaire.
Présente à cette première séance de prise de contact, la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Ebignagne Rosalie, a émis ses voeux à l'endroit de la nouvelle chef de bureau de l'UNICEF.
Nous travaillons avec les enfants et je pourrais dire que ce sont des élèves qui constituent le socle de l'éducation nationale. Et lorsque ces enfants ont des problèmes, c'est nous qui avons des problèmes. Ce sont ces enfants que nous formons qui vont devenir les cadres de demain. Donc sa présence ici nous fait plaisir.
Pour sa part, le premier responsable de la santé et de l'hygiène publique dans la région du Tonkpi, Dr Tia Mamadou, dit ceci.
La personne qui va animer ce bureau, nous attendons à ce que les défis qui sont au niveau du Tonkpi en matière de nutrition, en matière de santé adolescents jeunes, qu'elle puisse nous accompagner pour pouvoir adresser ces questions qui sont cruciales pour le bien-être de nos populations en matière de santé.
Rappelons que Jean-François Bass est représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire depuis juin 2023. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Hors de la Côte d'Ivoire, les forces de défense et de sécurité, appuyées par les forces spéciales d'unité d'élite de l'armée guinéenne, essentiellement composées de la garde présidentielle, se sont déployées à la recherche du fugitif Claude Pivi. Ce lundi 6 novembre, du lever au coucher du soleil, un important dispositif militaire a été déployé dans les quartiers de Kolea, Mafanko et Madina, au sud de la capitale. Les militaires ont procédé à des fouilles systématiques de plusieurs concessions, obligeant par endroits les commerçants à fermer leur boutique. Nous restons en Guinée, toujours à propos de l'évasion de Dadis Camara et certains de ses proches. Le parquet général guinéen a annoncé qu'au moins 9 personnes ont été tuées le 4 novembre dernier dans l'opération commando qui a permis la fuite pour l'instant de Claude Pivi, ancien patron de la garde présidentielle sous Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte. Ce dernier a été repris ainsi que deux de ses proches quelques heures après leur évasion de la prison centrale de Conakry. Retour sur les circonstances de cette évasion et la suite du dossier avec notre confrère Tiano Youssounou Ba, journaliste à la RTG, la radio-télévision guinéenne.
Les autorités sont à pied d'œuvre pour situer les responsabilités. Beaucoup d'enquêtes sont engagées, notamment par le parquet général qui a donné des instructions au procureur militaire d'entendre Dadis et compagnie pour des infractions en tout cas graves. Actuellement, beaucoup d'actions ont été entreprises, notamment la radiation des personnes qui sont suspectées d'être en tout cas proches de la situation au niveau de l'armée, au niveau de la police, de la gendarmerie, mais aussi au niveau des gardiens de prison.
Quels sont les premiers éléments d'explication de cette situation?
Bon, l'évasion, en tout cas, on dit que c'est un commando qui a fait irruption dans la matinée du samedi dans l'enceinte de la maison centrale de Conakry. On rappelle même que c'est un des fils d'un des détenus, notamment, qui était à l'époque le patron de la garde présidentielle qu'on appelle Claude Pivi. Donc, le commando s'est redirigé par son fils qui est venu faire irruption. Je ne sais par quel miracle. En tout cas, ce qu'il faut rappeler, il y a beaucoup de barrages de la rentrée de la ville de Conakry. L'administration est fortement concentrée, notamment même la présidence. C'est un endroit très bien sécurisé. Donc finalement, les gens ont dépassé tous ces barrages. Ils sont venus dépasser même le grand portail de la maison centrale, qui sont infiltrés par quel miracle, en effet. Donc le commando est venu les exfiltrer, mais certains parlent même d'enlèvement, parce qu'il semble que les autres n'étaient pas consentants, notamment Kéboro, Dadis aussi. En réalité, les gens disent que le fils de Pivi était venu chercher seulement son papa.
Quel est l'état d'esprit des Guinéens actuellement, puisque d'autres ont soupçonné aussi une tentative de coup d'État, hein?
Beaucoup de commentaires, mais ce qui est très évident, c'est que les gens sont rassurés, puisque le calme est revenu.
À l'instant, Tierno Younoussa Ba, journaliste à la radio-télévision guinéenne, joint à Conakry par Jean-Claude Comé. Maintenant dans ce journal, la revue des titres de la presse ivoirienne avec Jean-Mélène Bitti. Bonjour.
La succession à Henri Konan Bidi au PDCI RDA, le présumé trac de Soro Guillaume, la 6e édition du JNP, la rencontre du Premier ministre avec la chefferie de Bimpé sont en affiche de vos journaux de ce mardi 7 novembre 2023 en Côte d'Ivoire. Qui pour succéder au président Henri Konan Bidi à la tête du PDCI, plusieurs journaux tentent de répondre à cette question. En premier, Dernière Heure Monde, titre 8. 8e congrès du PDCI, présidence du parti, les ralliements se multiplient pour Tidiane Thiam. Le nouveau réveil, quant à lui, affiche en sa une congrès extraordinaire électif du PDCI, l'impératif de l'unité avant et après le 16 décembre. Pourquoi les ambitions ne doivent pas tuer l'enjeu? Le Béli Intrépide, dans sa publication de ce jour, a donné la parole au député Eugène Kouassi qui fait savoir que Tidiane Thiam est le meilleur cheval pour la présidence du PDCI. Contrairement à ses journaux, le jour plus, l'avenir, l'essor ivoirien et le matin ont un autre angle de traitement. L'avenir lui voit une guerre totale déclarée entre les candidats au PDCI RDA. Au jour plus, de revenir sur la crainte et la panique qui gagnent les militants à 5 semaines du congrès. L'essor ivoirien, lui, à son niveau, annonce avant son congrès extraordinaire, le PDCI renoue avec les discours d'exclusion. La guerre fait rage. Refermons ce chapitre PDCI avec le matin qui écrit « Bataille pour la présidence du PDCI ». Série B Ingessan, la candidature de Thiam est illégale, illégitime et immorale. Que disent les journaux sur cette présumée traque de l'ex-président de l'Assemblée nationale? Et là-dessus, Génération Nouvelle, ce journal proche de Soro Guillaume, ouvre le bal en mettant en titre « Rap manqué de Guillaume Soro à Istanbul, le peuple GPS debout derrière son leader ». Qui a besoin de Soro à Abidjan et pourquoi s'interroge le nouveau réveil? Selon Soir Info, le GPS annonce une protestation auprès des autorités turques dans le cadre de cette tentative d'arrestation. Le quotidien d'Abidjan à ce sujet titre « Hier, sauveur du RDR, Soro traqué aujourd'hui comme un vulgaire bandit ». Sur cette même affaire, dans les colonnes du journal Inter, un ex-lieutenant de Soro Diop dénonce une manipulation. La 6e édition des Journées nationales du partenariat État-secteur privé occupe aussi une place dans notre revue de titres. 6e édition des JNP Adama Koulibaly, l'appui du gouvernement au développement du secteur privé sera renforcé, indique Le Matin. On peut aussi lire dans Le Patriote, 6e édition du partenariat État-secteur privé, Adama Koulibaly annonce l'appui du gouvernement. Même son de cloche chez le Rassemblement qui y revient sur les propos du ministre Adama Koulibaly qui réaffirme la volonté de l'État de booster le secteur privé. Dans le cadre des préparatifs de la CAN, le Premier ministre Beugré Mambé rencontrera la chefferie du village des Bimpé. Ce jour, le Miroir d'Abidjan annonce CAN 2023 rencontre Mambé chefferie des Bimpé aujourd'hui. À l'expression de dire CAN 2023, Mambé tient une importante rencontre avec les chefs des Bimpé. Pour clore cette revue, revenons sur ce fait divers qui a attiré l'attention de certaines parutions de ce jour. Et c'est le journal Soir Info qui lève le voile sur ce sujet en mettant à sa une bien comment ignoble, 6 adolescents maîtrisent une élève et la violent à tour de rôle. Dans la même veine, le jour plus titre lutte contre le grand banditisme, 6 violeurs d'une mineure arrêtée. Voici l'essentiel des titres de vos journaux de ce mardi 7 novembre 2023. À vos kiosques et bonne lecture.
Merci Jean-Mélène Bitti, vous serez de retour dans l'édition de 8h pour le même exercice. À présent, la dernière articulation de ce journal. L'invité de la rédaction de ce jour est sociologue, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Se prononçant sur la reprise le 2 décembre 2023 comme annoncé par la CEI de l'élection municipale dans 9 communes et de l'élection régionale dans la région du Guémont, il appelle à tout mettre en œuvre pour leur garantir des résultats crédibles. Docteur Séverin Kwame répond à cet effet aux questions de Francis Cassi.
Docteur Séverin Kwame, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Cassi.
Le Conseil d'État a décidé que certaines élections locales soient reprises et la CEI a annoncé le calendrier, c'est-à-dire la date de ces élections-là pour le 2 décembre. D'abord, qu'en pensez-vous?
S'il y a des raisons qui font que ces élections doivent être reprises, c'est de bonne guerre qu'elles soient reprises. La grande question, c'est que prennent toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas répétition de ce qui a conduit à la reprise de ces élections.
Donc, est-ce à dire qu'il y a un enjeu à cette reprise?
L'enjeu, il est toujours le même. Le premier enjeu, de mon point de vue, c'est que le suffrage des électeurs soit exprimé et respecté. C'est déjà ça. L'autre chose, c'est la capacité de la CEI à organiser des élections qui fassent la part belle à beaucoup plus de convivialité et à moins de tensions. Et puis, la troisième des choses, c'est la capacité même des citoyens à participer à un scrutin sans qu'il n'y ait de risque de confrontation.
Lors des élections passées, beaucoup de voix se sont élevées contre la CEI. Qu'est-ce qu'on a pu reprocher à la CEI exactement?
Vous savez, quand on organise des élections, il y a différentes choses. Est-ce qu'on a garanti un environnement qui permette aux électeurs d'exprimer leur voix? Et est-ce que ces voix qui ont été exprimées, dans la façon dont on a dépouillé et transmis, ça reflète en fait le désir des électeurs. Je crois que là-dessus, il y a eu beaucoup de voix qui sont élevées pour dire qu'il y a des soupçons de fraude, il y a des soupçons de manipulation des résultats. La récurrence des plaintes laisse entendre qu'il y a quand même du travail à faire.
Vous, en tant qu'expert et puis en tant que citoyen aussi intellectuel, quels sont les conseils que vous donnez pour que la CEI ait le blason redoré?
Bon, je ne peux pas me permettre, moi, en tant que citoyen lambda, de donner des conseils à la CEI, mais il est important que l'attention des uns et des autres soit attirée sur quelque chose. Déjà, le personnel en charge de gérer le scrutin. Je pense que techniquement, il y a eu des observations qui ont été faites que dans de nombreux centres de vote, le personnel n'était pas forcément à la hauteur. Il y a eu des cas où même le décompte simple, le calcul des taux de participation, etc., était sujet à caution. Je crois qu'il y a un travail à faire pour professionnaliser ce personnel-là électoral et pouvoir avoir un vivier de personnes qui soient compétentes pour gérer ces questions. L'autre dimension, c'est comment on rassure les uns et les autres sur le fait que les résultats dépouillés, obtenus, soient ceux qui sont transmis et qui soient communiqués. C'est là où parfois aussi il y a beaucoup de suspicions. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faut innover pour que justement les uns et les autres soient rassurés. Parce que voilà, on est dans une société où on est un peu fatigué de ce que chaque joute électorale soit source de tension et de suspicion.
Et puis il y a un autre point aussi contre lequel des voix se sont élevées, c'est que des gens ont dit que là où ils étaient inscrits régulièrement, où ils votaient régulièrement, arrivés dans le centre de vote, leur nom n'y figurait pas et on leur avait dit comme ça qu'ils étaient inscrits ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça?
Pour moi, le problème, il remonte même en amont. C'est toute la question de l'inscription sur la liste électorale et la stabilisation de notre territoire. Les questions liées à la transhumance politique, les questions liées au fait qu'on ne retrouve pas ça. Ça, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on doit pouvoir légiférer et trouver une solution définitive. Mais pour ça, il faut un dialogue politique. Il faut que les différentes parties prenantes s'accordent sur, justement, des règles du jeu qu'on doit respecter. Là-dessus, je crois qu'il faut aussi évoluer avec l'ère du temps. Il faut pouvoir utiliser ce que les nouvelles technologies nous offrent, de sorte à ce qu'on puisse utiliser l'opportunité de l'élection comme un moment pour renforcer notre démocratie.
Tout le monde parle de démocratie, d'élection apaisée, mais il s'avère que dans certaines localités, il y a des gens qui viennent carrément casser des urnes, viennent mettre la violence, et puis bon, ces personnes-là, on n'arrive pas toujours à mettre la main sur elles. Pourquoi?
Oh, vous savez, partout où des élections sont porteurs d'enjeux, il y a toujours justement ce type de risque. Le plus important, c'est de savoir que ces risques existent et de les canaliser. Là-dessus, il faut identifier les mineurs et pouvoir les sanctionner. Je crois qu'on est dans un pays où parfois, il y a ce sentiment d'être des intouchables parce qu'on est en connexion avec des personnes qui sont dans le cercle de pouvoir et qui donnent le sentiment aux uns et aux autres qu'il y a une sorte d'impunité. Sanctionner, ça va permettre aux gens de ne pas récidiver.
Donc, il y a une instrumentalisation des hommes politiques derrière ça, c'est ça?
Ça va au-delà des hommes politiques. Aujourd'hui, moi, je parlerai plutôt d'entrepreneurs de violence. On est dans des contextes où il y a des gens qui ont un intérêt à la violence, quelle qu'elle soit. Et le scrutin peut être une opportunité de violence. Donc, envoyer des gens casser des urnes, ça peut participer justement de cette économie politique de la violence qu'il faut comprendre, qu'il faut adresser en amont. Le plus important, c'est la question de la lutte contre l'impunité et le sentiment d'être des intouchables. Il faut que la loi s'applique à tous et qu'elle soit exemplaire en termes de sanctions.
Un appel à tous les candidats et puis aux électeurs de ces différentes zones.
Démarcher les populations pour qu'elles viennent voter. Et une fois qu'ils ont voté, sécuriser leur vote. Et qu'on n'aille pas démarcher les gens sur leur peur pour leur dire, voilà, si vous ne m'élisez pas, vous aurez des problèmes avec les autres, etc. Je crois que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on offre? Est-ce que les gens comprennent ce qu'on leur offre? Et est-ce qu'elles seront en capacité de sanctionner si, à la fin du mandat électif, la personne qu'on a élue sur la base de son offre politique ne fait pas ou n'a pas fait ou n'a pas suffisamment fait ce qu'elle dit qu'elle allait faire. Donc je crois que c'est là aussi où il faut travailler.
Docteur Séverin Kwame, je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Kassi.
C'était l'invité de la rédaction, Docteur Séverin Kwame, en entretien avec Francis Kassi. Nous voici au terme de ce journal, le rappel des titres. Le 2 décembre 2023, il y aura une reprise de l'élection municipale dans 9 communes et de l'élection régionale dans la région du Guémont. Vous avez eu dans cette édition certains faits à la base de ces reprises. Et puis en Guinée, évasion de Dadis Camara et certains de ses proches. Selon le parquet général guinéen, au moins 9 personnes ont été tuées. Sur les circonstances de cette évasion et la suite du dossier, nous avons eu les précisions de Thierry Noba, confrère à la radio-télévision guinéenne. Merci de rester sur Radio de la Paix. Je vous retrouve à 8h.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.
La fréquence de la paix, y'en essaye. Oh la dame, monsieur, y'a gaillon. Bless up the fire, could never stop at the wire. Y'en essaye. La paix ensemble, c'est possible.
possible maintenant. L'amour, le pardon,